Je suis avec François Ruffin à Francfort, capitale du capital. La banque centrale ne fait pas de politique. Vraiment ?
Bon, aujourd'hui, Daniel, pendant que je m'approche de l'Eurotower à Francfort, on va causer de la création monétaire. Alors évidemment, dit comme ça, si en plus je m'enlise dans les histoires de taux directeurs, d'eurobonds, d'obligations, de marchés secondaires, etc., etc., je me demande comment je vais faire pour ne pas rendre ça chiant. Mais en fait, ça c'est une question très simple qu'on va poser aujourd'hui, et une question assez fondamentale. Comment se fabrique l'argent ? Et pour ne pas rendre ça chiant, et bien déjà ici, à l'Eurotower, à Francfort, eh bien, on va pas faire de la technique monétaire, on va pas faire de la technique financière, mais on va faire de la politique. Parce que c'est sans doute la question la plus politique, la création monétaire. Qui peut créer de la monnaie ? Aux mains de qui ça se trouve ? Des États ou des banques ? Et voilà, c'est un instrument, en fait, la création monétaire, c'est un instrument dans la lutte des classes, avec des conséquences énormes sur le partage de la valeur ajoutée, sur les dettes publiques, sur les budgets des familles. C'est tellement politique comme question qu'en fait, on pourrait presque raconter un millénaire d'histoire de France à travers cette question « Qui fabrique la monnaie ?» On peut en tout cas raconter un siècle de la gauche à travers cette question « Qui fabrique la monnaie ?» La gauche qui s'est longtemps heurtée au mur de l'argent à Paris, et qui peut-être se heurte maintenant au mur de l'argent ici à l'Eurotower à Francfort.
Eh oui, nous revoilà à Francfort autour de la question de la création monétaire et plus généralement de la politique monétaire qui constitue depuis fort longtemps, depuis des siècles, pour ne rien vous cacher, un enjeu de lutte essentiel entre la puissance d'argent et la puissance politique. Longtemps contrôlée par le patronat, la Banque de France, souvenez-vous, les aînés, fut nationalisée en 1945. Il y avait à cela quelques raisons. Elle fut alors subordonnée au pouvoir politique. Et moins d'un demi-siècle plus tard, souvenez-vous, les aînés, le législateur rebroussa chemin. Intéressant, non ? Intéressant, oui, d'accord, rébarbatif, sujet dont on n'aime pas beaucoup parler, je finis par pas trop y penser pour la plupart d'entre nous, la plupart, car il y en a un certain nombre, extrêmement réduit, qui sait très bien de quoi il est question à travers ses arithmétiques, à travers ses mathématiques et derrière ce jargon de la finance. François Ruffin vient d'évoquer le mur de l'argent. Voici quelques chiffres qui ont été publiés le 22 janvier 2010 dans le quotidien britannique The Independent, présentant une série de chiffres concernant la banque d'affaires Goldman Sachs. Attention, 11,3 milliards d'euros, c'est le montant des bonus distribués par Goldman Sachs en 2009. 15 820 euros, profit réalisé par Goldman Sachs à chaque minute, 15 820 euros. 8,5 milliards d'euros, profit annuel de Goldman Sachs après versement de 11,3 milliards d'euros de bonus. 350 000 euros, c'est le salaire annuel moyen. À Goldman Sachs, il faut rappeler que le salaire annuel moyen au Royaume-Uni est de 29 000 euros. Je continue comme ça autant que vous voulez. 57 milliards d'euros, c'est la valorisation boursière de Goldman Sachs le 21 janvier 2010. Et 40 millions, c'est l'estimation du nombre de personnes ayant perdu leur emploi à cause d'une récession provoquée par les dérives du système bancaire.